sans liberté. Une émission pour déménager la biologie. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. La monogamie existe-t-elle? De tout temps, des unions reproductrices se sont fermement établies entre des partenaires mâles et femelles. Un papa, une maman, et la vie animale semble parfois se restreindre à cet exercice. Les tourterelles figurent en tête de cette représentation romantique, car les tourtereaux roucoulent à deux, et chacun semble se vouer à un amour régulier et sincère. Les tourtereaux, cependant, révèlent quelques surprises, car monsieur et madame ne se retrouvent pas ensemble toute l'année, et l'un et l'autre peuvent aussi entamer des relations avec encore d'autres tourterelles à chaque fois qu'elles reprennent l'exercice. Dans les années 1980, les biologistes considéraient que 90% des oiseaux chanteurs étaient des espèces monogames. Le pinson, la mésange, la tourterelle. Le chant des mâles garantissait-il la tranquillité affective des femelles? Non, il fallut bientôt déchanter. Car toutes ces espèces ont révélé d'une part que cette monogamie sociale ne durait que l'espace d'une à quelques semaines et que d'autre part les aventures sexuelles restaient monnaie courante. Madame Mésange allait couver une nichée dont monsieur n'était responsable qu'en partie. La génétique montre ainsi que plus de 40% des couvées ne sont pas issues d'un même père. Bref, ces engagements dans des relations non maritales sont choses bien plus communes qu'on le croit chez toutes les espèces animales et même chez les oiseaux. À y regarder de plus près, il existe bien des différences entre l'hypothèse d'une vie à deux, réglée à travers un contrat monogame, et la réalité sociale, sexuelle, génétique et donc même maritale. Par exemple, chez les humains, le mariage n'assure nullement une fidélité longue et prospère. Pourtant, les époux se doivent fidélité, affirme cette ineptie du contrat nuptial. Était-ce mieux auparavant? Assiste-t-on à une déliquescence des mœurs comme le soutiennent les tenants du rigorisme politique et religieux? Eh bien, en cherchant un peu, l'Égypte ancienne ou la Mésopotamie s'accordaient sur des unions plutôt flottantes, avec des mariages mais très faciles à rompre et souvent polygames. Certes, il existe bien des endroits où l'infidélité au mariage était gravement punie, comme dans la Palestine ancienne. Du moins, c'est ce que semble raconter la Bible des monothéismes. Mais il faut savoir lire les langues anciennes et se reporter aux textes réels. Car l'infidélité concernait d'abord le mariage. C'est-à-dire que s'il était interdit de s'adonner au plaisir de la chair avec une femme mariée, la vie monogame n'empêchait nullement l'homme d'avoir des fréquentations sexuelles avec autant de femmes célibataires qu'il le souhaitait. Autant dire que la vie maritale ne dérangeait pas une sexualité débridée. Pour la petite histoire, celle qui se raconte entre deux mots. L'infidélité n'existait que entre gens mariés, pas si on pratiquait le sexe avec un ou une célibataire. De plus, la femme de Palestine était punie bien différemment quand elle trompait son mari avec un autre homme marié, selon qu'elle vivait en ville ou qu'elle vivait à la campagne. En ville, c'était le fouet, voire la mort, car l'infidèle aurait pu appeler au secours, donc on considérait qu'elle était pleinement responsable de son accro au mariage. À la campagne, en revanche, on admettait qu'elle ne pouvait de toute façon pas solliciter de secours, les individus étant trop dispersés les uns par rapport aux autres, et que donc elle ne pouvait pas être totalement coupable de s'adonner au péché de chair. Bref, cela a dû autoriser quelques copulations adultérines et récréatives, on le pressent. On voit ici poindre deux réalités tangibles. Premièrement, l'union unique et perpétuelle ne résiste guère à l'analyse, car le contrat rigide ne peut être tenu que si des sévères contraintes le garantissent pour interdire d'autres relations. Et deuxièmement, la monogamie maritale est l'état qui fait exister l'infidélité et le divorce. Sans monogamie maritale, pas d'infidélité, mais seulement des amoureux qui se succèdent, comme chez les tourterelles. De fait, la monogamie reste donc une véritable énigme évolutive et sociale. Est-elle naturelle? D'où vient-elle? Quel serait son avantage? Y a-t-il des animaux fidèles toute leur vie? Ou alors la monogamie est-elle le propre de l'homme? Mais au fait, la monogamie existe-t-elle? Eh bien, c'est sur ce sujet brûlant que nous allons nous pencher pendant 1h30.
Adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seul, isolé, sans soutien, sans nul entrave, mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs, et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimait tant, jadis quand j'étais belle. Adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? S'achève et quand vient le matin, la rose pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé, dans le jour blême sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux, tous ces pantins que je vois, ce sont eux. Luttant quand même, suprême effort, je crois les étreindre encore. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Tous ceux qui m'aimaient tant, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants?
et Fréhel qui se lamentaient dans cette nouvelle émission, car nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, et dans Science en liberté. Une émission pour tous les aventuriers de l'esprit. Bonjour Chris.
Bonjour Thierry.
Alors, nous allons parler de cette monogamie en commençant par la problématique de l'évolution humaine.
Alors, je voulais dire qu'il existe bien des raisons de s'inquiéter du travail des scientifiques. Donc, nous analysons aujourd'hui le thème donc de la monogamie. Et nous allons voir combien les idées les plus farfelues côtoient, sans rire, des notions normatives bien éculées.
Et oui, des travaux récents alimentent encore le débat sur l'existence ou non, sur l'hypothèse de cette existence de la monogamie chez les humains. Par exemple, Black Edgar a défini l'humain comme présentant un mode de vie en couple durable et il affirme que cela aurait facilité le développement d'un plus gros cerveau. Et oui, ça doit expliquer l'état du mien. On trouve ainsi des affirmations d'un anthropologue de l'université de Montréal, Bernard Chappet, qui nous dit
« La monogamie aurait constitué une étape cruciale dans le processus de développement de nos ancêtres. » Le couple est même devenu l'un des piliers des systèmes sociaux humains et l'une des clés du succès de notre évolution. C'est le lien de couple qui a vraiment engendré l'organisation sociale humaine. Comment une étape cruciale? Pour qui? Le développement de nos ancêtres. Ça incite à croire qu'avant, ils ne se mettaient pas en couple parce que c'était des sauvages. D'où la soi-disant développement d'un plus gros cerveau. Et déjà, est-ce que la taille du cerveau a un rapport avec l'intelligence ou l'évolution?
Alors c'est clair que la taille du cerveau a largement augmenté depuis les Australopithèques, mais en fait on n'a aucune connaissance sur le mode de vie social et le mode de vie sexuel de ces braves petits animaux qui ont précédé l'évolution humaine. Quant au succès du couple...
Voilà, 50% des couples divorcent, et je parle même pas de ceux qui restent en couple pour l'apparence, soi-disant sont fidèles et par derrière vont chercher ailleurs. L'organisation sociale humaine est-elle la seule qui existe comme modèle de la vie sociale? Déjà, il y a des tas de variétés de modèles sociaux humains et à différentes époques.
Alors c'est vrai que la recherche de la monogamie comme l'un des piliers de la constitution humaine peut prêter à sourire, dans la mesure où, évidemment, ce ne peut être vu qu'à travers le filtre des connaissances sociales actuelles sur la vie qui nous est un peu obligatoire et qui a été adoptée principalement suite à l'existence des grandes religions monothéistes et surtout, évidemment, du monde judéo-chrétien. Or, la lignée des grands singes et la nôtre se sont séparées il y a maintenant plus de 7 millions d'années. Nos prédécesseurs ont adopté plusieurs comportements. Ils ont commencé à transporter de la nourriture dans les bras.
Ouais.
Et donc, ces bras se sont libérés grâce à la bipédie. On ne sait pas trop quelles sont les causes et les effets de cela. Et là, évidemment, notre chercheur canadien nous dit que ces humains auraient donc commencé à former des couples permanents. Et en outre, à dissimuler les signes extérieurs de l'ovulation féminine. C'est ces innovations qui auraient permis l'émergence des hominidés, la lignée humaine.
Mais que sait-on des Australopithèques?
On ne sait pas grand-chose, ni des Australopithèques, ni des préhumains. On sait par contre que c'est vrai que l'ovulation silencieuse, comme on dit chez les femmes, c'est-à-dire le fait de ne pas montrer de caractéristiques extérieures qui présentent les possibilités d'ovulation et donc de fertilité, peut engendrer toute une série de mécanismes divers.
On voit quand elle ne peut pas, parce qu'elle a ses règles.
On voit quand elle ne peut pas, mais on ne voit
pas quand elle peut.
Mais voilà, on ne voit pas quand elle peut.
Voilà.
Ça oblige donc les individus à répéter très souvent les relations sexuelles. Mais c'est pas les seuls animaux qui sont comme ça. Il y a beaucoup d'espèces chez qui l'ovulation dépend strictement de la durée et du nombre de copulations. Chez les mustélidés, par exemple, les petites belettes, les fouines, etc. Il faut que les animaux copulent souvent, très souvent, et répètent leur copulation pour qu'ils aient des petits. Donc ça aussi, ça oblige évidemment les mâles et les femelles à rester un certain temps ensemble. Mais le fait qu'on reste ensemble un certain temps signifie quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Ça n'engendre pas l'idée qu'on peut rester à vie.
À vie, voilà. Et comment la libération de la main peut-elle intervenir dans la monogamie, qui est un attachement affectif? Peut-être que c'est parce que c'est plus facile de mettre des baffes quand on a les mains libres. Qu'on connaît bien le proverbe « qui aime bien, châtie bien ». Ça doit être pour ça, alors.
On voit en tout cas que l'idée qu'on se fait de la monogamie dans l'évolution humaine est racontée d'une manière tout à fait particulière. D'abord, c'est une histoire évolutive qui est racontée à rebours. On part de la monogamie pour ensuite calquer ça sur ce qu'on sait des traits humains, et on explique ainsi les avantages évolutifs de l'humain à travers cette histoire évolutive racontée. Mais évidemment, il va rester deux questions essentielles. La première, c'est est-ce que l'espèce humaine est vraiment monogame ? Et deuxièmement, est-ce que la monogamie va vraiment apporter des avantages évolutifs ?
Et moi, je rajouterais, et si justement, elle aurait apporté des désavantages évolutifs ? Genre, notre cerveau s'est réduit depuis. On peut le dire comme dans ce sens aussi.
Alors effectivement, on ne peut pas trop savoir si l'avantage évolutif existe dans la monogamie. En tout cas, c'est au contraire quelque chose d'assez bizarre. La monogamie consiste donc à former des couples apparemment stables, et ces couples apparemment stables s'opposeraient à une autre hypothèse qui serait celle de la polygynie, l'homme, le mâle serait avec plusieurs femelles, ou de la polyandrie, la femelle serait avec plusieurs mâles. Ces organisations sociales existent dans le monde animal, mais on voit ici que la classification comporte des tiroirs assez bizarres, puisque pour qu'il y ait monogamie, il faut évidemment qu'il y ait deux individus. Pour qu'il y ait polygynie, ça peut être 2, 3, 4, 20, 50, 60, 100 000. Donc la souplesse de ces définitions laisse aussi évidemment beaucoup, beaucoup de choses dans l'inconnu pour le moment. C'était la fanfare Tchokarlia pour le morceau Sandala. Alors on voit qu'il va falloir approcher d'une définition beaucoup plus précise de ce qu'est la monogamie pour pouvoir en parler. Car la monogamie est une variable assez difficile et on ne peut pas expliquer la stabilité des couples comme étant le facteur constitutif de la dimension monogame. En fait, cette dimension monogame est susceptible de varier largement d'une espèce à l'autre, mais aussi selon la définition qu'on en donne. On peut ainsi considérer qu'il existe une monogamie maritale. La monogamie maritale, c'est la monogamie qui concerne le mariage.
Bah oui.
La monogamie sociale. Voilà. Alors c'est celle qui apparaît. Par exemple, les oiseaux nous montrent une association en couple pendant un temps relativement court. La monogamie sexuelle. La monogamie sexuelle, c'est le fait qu'on se concentre sur un partenaire sexuel, mais ça n'empêche nullement qu'on puisse avoir d'autres partenaires sexuels non principaux. Mmh. Et puis, bien sûr, la monogamie génétique, qui, elle, concerne la descendance et qui montre qu'il existe là, dans ces conditions, un seul père pour toute une nichée ou pour toute une portée. Alors, évidemment, ces différentes formes de monogamie ne s'opposent pas à différentes formes de polygynie. À chaque fois, on s'aperçoit que le critère essentiel de la monogamie, c'est l'hypothèse que le couple est stable, que ce couple est plus ou moins stable dans le temps et dans la relation sexuelle. En revanche, la question qui se pose, c'est est-ce que cette monogamie existe ? Dans la mesure où les ressources du mâle ne sont pas mobilisées par la gestation ou encore par le fait d'allaiter ou de nourrir les petits, pourquoi ne va-t-il pas accroître sa descendance, c'est-à-dire ce qu'on appelle en biologie sa fitness, sa capacité reproductrice, en allant s'accoupler à d'autres femelles? Car si la femelle, en multipliant les mâles, ne va pas augmenter sa descendance, le mâle, en multipliant les partenaires, peut évidemment augmenter sa progéniture. En outre, évidemment, l'autre hypothèse, c'est que vu qu'il y a 50% de mâles et 50% de femelles, la monogamie serait une stratégie plus ou moins efficace dans la mesure où chacun aurait sa chacune. Ouais. Là encore, dans la réalité, c'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout une stratégie pacifique, car il faudrait, pour que ça soit ce type de stratégie, que la maturité des mâles coïncide absolument avec la maturité des femelles, ce qui est en général rare. Hein, la plupart du temps, les mâles sont matures sexuellement beaucoup plus tardivement que les femelles. Il faudrait également que les femelles aient une maturité reproductive qui soit aussi longue que celle des mâles. Là, encore, c'est faux.
C'est même pas le cas chez les humains.
Puisque la plupart du temps, les femelles vieillissantes ne vont plus avoir cette capacité reproductrice. Et puis enfin, dernier caractère, évidemment, il faudrait que la durée d'élevage des petits ce soit un facteur qui améliore leur nombre. Or, c'est pas parce qu'on va élever un petit 22 ans ou 23 ans à la maison, n'est-ce pas, Chris, que l'amélioration de la reproduction se fera sentir. Bon. Donc, on s'aperçoit que la monogamie va être liée à des espèces qui pratiquent, en fait, un mate-guarding, c'est-à-dire dans lequel les individus se surveillent l'un l'autre. Principalement, c'est le mâle qui va empêcher la femelle d'aller voir ailleurs. Voilà. Un peu ce qui se passe en Arabie Saoudite, hein, ou chez de nombreuses espèces d'oiseaux, comme les mouettes, par exemple. Ouais. Ou alors que la défense des ressources va être un facteur essentiel. C'est-à-dire que les animaux ne vont pas pouvoir se répartir sur des ressources disponibles partout et en tout lieu. Ils seront au contraire obligés de surveiller la disponibilité des ressources et de s'en emparer les premiers pour éviter que d'autres le viennent leur prendre. Voilà. Donc on a un critère obligatoire de surveillance, de contrôle, et un critère obligatoire de territorialité ou du moins de compétition. Alors, en fait, dans la nature, on s'aperçoit que les variations sont importantes. Par exemple, on a l'albatros hurleur qui vit plus de 50 ans, conserver le même partenaire d'année en année. Oui, c'est un animal rigolo, l'albatros hurleur, parce que il est à peu près comme les humains. Il commence à se fiancer vers l'âge de 12 ans et il commence à se reproduire vers l'âge de 20 ans. Donc, on voit que c'est des espèces qui nous ressemblent beaucoup d'un certain point de vue. Mais on a d'autres oiseaux, comme le flamant rose, qui lui aussi vit plus de 50 ans. Ouais. Le flamant rose, il va lui aussi former des couples, mais ces couples-là vont divorcer systématiquement tous les ans. Alors on voit que ces différences radicales vont s'expliquer par tout un ensemble de caractéristiques écologiques qui vont être dépendantes de chaque espèce. Mais même le fait de s'associer en couple, c'est un mécanisme plus que rare dans le monde animal. En fait, dans la réalité, ces mécanismes de formation de couple n'existent pas, ou du moins elles concernent en général à peine 3% des animaux. Si les oiseaux chanteurs vont présenter une monogamie sociale apparemment de 90%, on l'a dit dans l'introduction, la plupart d'entre eux ne vont pas avoir un seul partenaire, mais vont au contraire multiplier les accouplements.
Ils vont aller voir ailleurs.
Voilà. Les mammifères, par contre, ne sont que 3% à préférer un régime socio-sexuel de type, entre parenthèses, monogamie. Et puis, des oiseaux comme par exemple le bruant zizi.
C'est un drôle de nom, hein, celui-là.
Oui, c'est un petit oiseau qui a un chant tout à fait particulier, un petit oiseau à tête jaune et noire, rayé de noir, va lui montrer une certaine forme de monogamie. Il va être assez intensément lié à la femelle. En fait, il va y avoir plusieurs couvées. Et le plus souvent, pendant la même année, l'animal risque de se remettre avec le même partenaire. Souvent, pour les deux premières couvées, la troisième couvée qui se déroule en général plus tard peut parfaitement être liée à la perte d'un partenaire en revanche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour définir la monogamie, il faut plusieurs caractéristiques. La durée de l'union, le nombre de partenaires qui doit être strictement égal à deux, un partenaire chacun, et le type de soins parentaux. C'est ce qu'on appelle l'investissement parental. L'investissement parental va surtout concerner la femelle en général. C'est le cas, par exemple, chez la belette et chez beaucoup d'espèces. Et de temps en temps, l'investissement parental va concerner le mâle.
Mâle, voilà.
Comme par exemple chez le
jacana, c'est pas le mâle qui...
Non, l'investissement parental du mâle est compensé par celui de la femelle. Le jacana est un type un peu particulier. Ah. Mais par contre, chez l'alite, le crapaud alite, par exemple, là, le mâle va s'emparer des œufs. Et puis, on a bien sûr aussi le cas de l'hippocampe, qui a souvent été pris comme caractéristique des animaux monogames. Alors les hippocampes, c'est un groupe d'animaux tout à fait étonnant. On connaît ce petit poisson qui ressemble à un cheval des jeux d'échecs. Et on connaît tous évidemment sa reproduction particulière, puisque c'est le mâle qui va porter les 100 à 200 œufs que la femelle va lui remettre pour faire une incubation à l'intérieur de sa poche, à l'intérieur de sa peau en fait, et libérer les petits dès qu'ils ont atteint la métamorphose. Alors ces animaux vont... avoir un mode de reproduction qui paraît souvent exceptionnel, mais dans la réalité, dans le monde animal, il y a de nombreux pères comme ça qui vont porter leur progéniture. Les plus connus sont probablement les crapauds accoucheurs, mais beaucoup d'autres amphibiens ou poissons vont porter les œufs, soit sur leur dos, soit dans des poches spéciales, soit même sur leurs pattes, comme par exemple chez les pycnogonides. Alors, les pycnogonides, c'est des sortes d'araignées, hein, quelque chose qui ressemble un petit peu aux araignées, ce sont des animaux marins. Et cette reproduction dans laquelle le mâle s'empare de la pompe de la femelle est souvent considérée comme quelque chose de remarquable, le père faisant en quelque sorte l'investissement parental à la place de la femelle. Mais il ne faut pas regarder que ce bon côté des choses. Dans la réalité, si le mâle s'empare des œufs de la femelle, c'est évidemment pour être certain d'être le père. La femelle, c'est une fécondation externe. La femelle va émettre ses ovules, que le mâle va féconder en les arrosant de sperme. Et donc, il a tout intérêt à les arroser de sperme et à les garder avec lui, pour être certaine qu'un autre mâle ne va pas venir les arroser par derrière, et par conséquent, qu'il n'en serait pas le père. Une fois qu'il a ses 200 œufs, 150 à 200 œufs en lui, il va donc les conserver le temps de leur maturité, et il expulsera ensuite les jeunes. Alors, ce qui a été souvent signalé, évidemment, c'est que l'hippocampe était l'animal monogame par excellence. Alors, c'est assez incompréhensible, la monogamie de l'hippocampe, dans la mesure où ces espèces sont des animaux qui sont rarement en très grande dispersion, ce sont pas des animaux qui connaissent des contraintes importantes, et en fait, la réalité, c'est que cette fidélité est beaucoup plus prétendue que réelle. Il a fallu attendre l'année 2007 pour qu'on commence à découvrir sérieusement quelles étaient les mœurs sexuelles de ces espèces. Alors, il y a à peu près 200 espèces d'hippocampe, mais l'étude concerne 3 espèces, et plusieurs hippocampes qui ont été étudiés soit en aquarium, soit dans la nature. Alors, les mâles et les femelles ont été étudiés dans ces 3 espèces, et on a observé, on a rendu compte les rencontres amoureuses. La paranuptiale était relativement connue, hein, c'est une paranuptiale un petit peu bizarre, la femelle se présente devant le mâle, elle fait du bruit, elle bouge un peu, et puis d'un seul coup, elle expulse sa ponte que le mâle doit tout de suite féconder. Sur la grande barrière de corail australienne, la description a été faite d'une manière tout à fait romantique, puisque les deux individus, mâle et femelle, s'emparaient l'un de l'autre pour s'enlacer, et petit à petit, la femelle libérait ses œufs. Mais cette scène romantique est en fait bien différente de ce qu'on observe réellement lorsqu'on regarde ce qui se passe dans l'étude canadienne ou dans l'étude anglaise. D'abord, de nombreuses plongées qui ont été faites montre que cette monogamie découle plutôt d'une coïncidence spatio-temporelle, c'est-à-dire que la femelle et le mâle sont proches à des moments donnés, donnent l'impression d'être ensemble, mais que c'est pas toujours monsieur et madame. En fait, on s'aperçoit que lorsqu'on regarde les danses nuptiales, il y a pas mal de danses nuptiales qui se passent entre femelles, et pas mal de danses nuptiales qui se passent entre mâles, ou si l'on préfère, ces animaux sont beaucoup plus fantasques que ce que l'on pourrait croire, puisqu'on a affaire à des relations de type homosexuel entre femelles et entre mâles, dans de nombreux cas. Bien, on s'aperçoit aussi que notre ami l'hippocampe n'est pas toujours monogame. Il est au contraire capable de présenter des relations bien plus avides auprès d'autres femelles,
il est capable de s'emparer de ce que font d'autres femelles, et en fait la monogamie est beaucoup plus liée à des hypothèses à des extrapolations, on va dire, que certains biologistes ont fait, que réellement basée sur l'étude de nos amis l'hippocampe. Alors ces études anglaises nous donnent en fait des données très 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 différentes. Paul Bullemore notamment a montré que cette monogamie était une monogamie hypothétique beaucoup plus qu'une monogamie réelle. On voit très bien que déjà il y a de l'eau dans le gaz dans les relations entre nos amis les hippocampes.
I'd like to pack this in and take you to the stars. We'll eat in fancy restaurants and drive in fancy cars. We tried our luck, we made a buck, so lean back, have some fun.
Oh yes, my love, but first just this last one.
We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by. Cut the ropes and let that poor fool go.
Though you go getting weak on me, not when I need you so.
We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. Just stand by. Watch the candle burn. I'm feeling kind of drowsy. There's blood on the floor. And when I'm gone, you still will have my love forevermore. My love forevermore.
Billy Moon, Explosion, My Love Forevermore. Donc nous revoilà sur une radio associative, pas comme les autres. Nous sommes sur 89.4, Radio Libertaire. La radio sans maître, sans Dieu et sans publicité, et toujours à la recherche de ce qu'est la monogamie.
Car la monogamie oblige donc, on l'a vu, à se restreindre en nombre de partenaires et à réduire sa capacité de se reproduire. Autant dire que d'un point de vue évolutif, la monogamie diminue tous les avantages en diminuant la progéniture et donc la fitness évolutive. Comment comprendre cette aberration du comportement monogame ?
C'est pas un avantage.
Ça peut pas être un avantage, mais il y a donc des théories qui vont nous permettre d'expliquer ce gros problème de la monogamie, ce gros problème du désavantage monogame, puisque pour les mâles en tout cas, quand on se reproduit avec une seule femelle, on perd évidemment la possibilité de chercher à se reproduire avec d'autres. comment la choisir et qu'on va en faire.
Voilà.
Alors la première des théories, c'est la théorie du coût reproducteur. C'est qu'en gros, l'idée, c'est que la monogamie serait avantageuse pour des espèces où l'élevage de la descendance est très difficile et très coûteux en termes d'énergie ou en termes de ressources. C'est le cas, par exemple, chez de nombreuses espèces de singes, où les femelles vont donner naissance à des jumeaux et donc ont besoin d'un mâle pour les mener à l'âge adulte. On retrouve également ça, par exemple, chez de nombreux oiseaux, où effectivement, les ressources disponibles sont rares et difficiles à monopoliser pour une seule femelle.
Voilà. Donc si elle avait plusieurs mâles, ça l'aiderait pas, du coup.
Du coup, si, ça pourrait même expliquer en partie ce qu'on a appelé la polyandrie, comme chez le jacana dont tu parlais tout à l'heure, où la femelle va solliciter l'aide de nombreux mâles pour faire de la reproduction. La monogamie serait en quelque sorte le pivot entre la polyandrie d'un côté, où les femelles sollicitent l'aide de plusieurs mâles et copulent avec plusieurs mâles, et la polygynie de l'autre, où les mâles vont copuler avec plusieurs femelles. Mais dans la réalité, on s'aperçoit que dans la nature, la polyandrie, c'est-à-dire le fait que la femelle ait plusieurs mâles, est très rare, alors que la polygynie est très fréquente. Et puis, il existe ces fameuses espèces monogames qui, bien que pivots par rapport à ce système-là, semblent effectivement assez perdues au milieu des autres. Prenons par exemple le cas du manchot empereur.
Alors,
le manchot empereur est une grosse espèce qui est bien connue depuis un certain temps grâce à des films qui ont été faits sur son mode de vie et grâce à de nombreuses études qui ont été faites.
Déjà, il vit en groupe.
Alors, c'est un animal qui vit en colonie. Ça, c'est pas tout à fait la même chose qu'un groupe. C'est un peu plus compliqué. Il y a une organisation sociale coloniale qui fait que les animaux vont se partager un travail. Les mâles et la femelle ne vont se retrouver qu'au moment de l'accouplement, après une longue marche sur le centre du continent antarctique. Les manchots vivent tous en Antarctique, ou du moins dans l'hémisphère sud. Et le manchot empereur s'accouple vers mai. Les mâles vont alors couver les œufs, c'est-à-dire que les femelles vont leur donner des œufs, et c'est les mâles qui vont couver les œufs de juin à juillet. Dans la réalité, les femelles vont alors s'en aller chasser.
Elles vont chasser, donc les mâles aussi vont chasser, non ?
Les mâles restent, eux, au contraire, dans le blizzard. Juin-juillet, c'est la grande époque de l'hiver en Antarctique. Les températures vont descendre jusqu'à moins 50 degrés. Le mâle va garder l'œuf sur ses pieds et va couver l'œuf pendant toute cette période-là. Le pire, c'est qu'il couve sans manger. Il a l'estomac plein, en fait, mais il ne digère pas pendant toute cette période-là et il ne mange pas pendant toute cette période-là.
Et cette période, ça dure combien de temps ?
Ça dure de juin à août à peu près.
Donc juin à août,
c'est très très long. Ça dépend évidemment du froid qu'il fait. La couvaison n'est pas quelque chose de très fixe. Mais enfin, ça peut durer un certain nombre de jours. Les femelles reviennent, elles, après avoir mangé. Et là, le petit a déjà éclos en général. Et il va y avoir un passage du petit. Ce sont les femelles qui vont prendre le petit et l'alimenter pendant que le mâle, lui, s'en va chasser.
Voilà.
C'est un cycle qui va se répéter plus de 6 fois. Évidemment, les oisillons vont grossir grâce au nourrissage répété par les adultes. Et évidemment, les oisillons vont réussir petit à petit à devenir adultes. Mais on s'aperçoit qu'à chaque fois, il n'y a finalement qu'un seul individu qui s'occupe du petit. C'est en grande partie ce mécanisme-là qui oblige à être en couple. Car évidemment, si les individus ne revenaient pas et s'ils n'étaient pas à deux, eh bien, il n'y aurait plus personne pour s'en occuper. Mais le couple est lui-même dépassé par l'organisation sociale, qui fait que les oisillons vont se retrouver en groupe à des moments donnés, on appelle ça des nurseries, et souvent sur la garde, avec la garde des autres animaux. Ce sont donc ici, on le voit, des conditions terribles qui conduisent ces animaux à adopter cette stratégie particulière. Le coût reproducteur étant très fort, la difficulté de se reproduire étant très importante, les animaux vont être monogames.
Il faut toujours qu'il y en ait un qui garde, qui couve, pendant que l'autre va chasser.
Voilà. Alors, il y a d'autres théories. Par exemple, il y a la théorie de la dispersion. La théorie de la dispersion, c'est que la monogamie, ça serait un moyen pour les mâles de s'assurer, en quelque sorte, que les femelles soient toujours disponibles, notamment lorsqu'elles sont trop dispersées dans l'habitat. Comme on ne peut pas accaparer plusieurs femelles, notamment chez les espèces vivipares, où là, évidemment, la reproduction va se faire non pas par des œufs, mais par des individus qui vont avoir une gestation, eh bien, on ne peut pas avoir plusieurs femelles, car les individus sont trop dispersés, on ne peut pas contrôler différentes femelles, et donc il vaut mieux en avoir qu'une plutôt que d'en avoir plusieurs. Voilà, afin de faire fructifier en quelque sorte ses propres gènes et pas ceux des concurrents. La théorie de la dispersion dépend donc de la densité des femelles, mais elle repose aussi sur une hypothèse qui est assez fréquente en biologie évolutive, c'est l'hypothèse que les animaux doivent laisser à tout prix leurs gènes, font tout pour cela, et qu'évidemment, ils sont tous en concurrence les uns avec les autres. Alors c'est pas faux que les mâles sont souvent en rivalité, et en rivalité plus ou moins forte, mais c'est pas toujours vrai non plus que l'objectif des mâles est de s'emparer uniquement du ventre des femelles, ouais. en quelque sorte, pour les faire se reproduire. Ceci dit, cette théorie de la dispersion est une des théories qui tient le plus la route, dans la mesure où c'est vrai que chez la plupart des espèces monogames, on s'aperçoit en effet que les mâles ne peuvent pas monopoliser plus d'une femelle. Ouais. La vraie question, c'est évidemment pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas ?
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way.
C'était Buddy Holly dans Everyday.
Donc tout à l'heure, tu disais que la dispersion, c'était celle qui est la plus probable,
l'une des théories, oui, qui permet le mieux de rendre compte de ce mécanisme aberrant qui est donc la monogamie.
D'accord. Et là, tu vas nous parler de la sémelparité, c'est ça ?
Oui, parce que la vraie question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que c'est finalement que la monogamie ? Y a-t-il une monogamie, des monogamies ? On rappelle brièvement que la monogamie, c'est l'hypothèse que nous n'ayons qu'un seul partenaire pendant une période relativement longue. La question est de savoir déjà quels critères de période on prend. Est-ce qu'on reprend comme période la vie entière ou est-ce qu'on prend simplement des petites périodes de reproduction ? À dire vrai, moi je suis monogame à chaque période de reproduction, hein, si on peut dire.
effectivement.
Donc on voit très bien que la définition, que la définition est très 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 difficile. Car tout va dépendre de cette définition et cette définition dépend strictement de la conception qu'on peut avoir. Alors il y a un chercheur au 19e siècle qui disait « Il n'y a pas d'animaux monogames » Il n'y a d'animaux monogames, pardon, que se faisant une seule fois l'amour dans leur vie. Il y a des monogamies de fait, il n'y en a pas de nécessaire. Dès que l'existence de l'animal est assez longue pour lui permettre de se reproduire plusieurs fois. Car en effet, on pourrait considérer que la seule manière pour qu'on soit monogame, c'est de faire une reproduction unique.
Unique.
Et suicidaire.
Voilà.
Par exemple, comme chez les saumons. Mmh. C'est ce qu'on appelle la sémelparité. C'est aussi ce qu'on retrouve chez les onychophores,
par exemple. C'est quoi les onychophores ?
Alors les onychophores, ce sont des toutes petites bêtes qu'on appelle aussi des vers à soie, enfin des vers de soie ou des vers soyeux. Ce sont des petits animaux qui ressemblent à des vers de terre, mais qui ont déjà des sortes de petites pattes, des sortes de pseudopodes, et qui sont tout à fait particuliers puisqu'ils sont capables de capturer des proies en crachant dessus. Ils vont capturer des petits insectes en leur crachant une salive extraordinairement collante,
voilà.
et qui leur permet d'attraper les proies. Ouais. Et parmi les particularités des onychophores, eh bien, c'est le fait d'être extraordinairement prude. Quand un mâle rencontre une femelle, eh bien, il ne va se reproduire avec elle qu'une seule fois. Et cette reproduction unique va conduire à la mort, l'individu ayant donné toutes ses ressources pour cela.
Mais c'est le mâle qui meurt d'abord, ou la femelle? Parce que la femelle, il faut bien qu'elle donne naissance au petit avant de mourir. Sinon.
Chez les onychophores, c'est ça. La femelle va donner naissance au petit. Mais chez les saumons, notamment chez le saumon coho, le saumon canadien, on a des individus qui vont mourir. Alors là encore, tous les individus ne meurent pas lors de la reproduction. Seuls les grands adultes vont mourir lors de la reproduction. Et en gros, le mâle, la femelle va étendre ses œufs, puis va aller mourir. Voilà. Pendant ce temps, le mâle va arroser les œufs de sa semence et va aller mourir ensuite. Alors on a tenté de sauver des saumons pour voir s'ils étaient encore capables de survivre, mais dans la réalité, non. Les modifications physiologiques qu'entraînent la reproduction de l'eau salée vers l'eau douce, etc., conduisent ces animaux à mourir, à ne se reproduire qu'une seule fois.
D'accord.
Ce mode de reproduction est aussi fréquent chez de nombreuses plantes, où il y aura une fleur qu'une seule fois et où les animaux ne se reproduiront qu'une seule fois.
Okay. Bon,
alors c'est pratique, parce que si on se reproduit qu'une seule fois, on investit finalement très peu dans cette stratégie qui est quand même très coûteuse d'élever des petits, et en même temps, on laisse des descendants derrière nous, donc à eux de renouveler les générations. Donc on appelle ça des espèces semelles pares, si les individus ne se reproduisent qu'une seule fois au cours de leur vie. Et là, évidemment, ils sont forcément monogames. Mais la monogamie, c'est évidemment pas ça. Le plus souvent, ce qu'on nomme monogamie, c'est bien des conceptions très diversifiées, dans lequel on associe un mâle et une femelle.
Voilà. Et là, il y a quand même un mâle et une femelle, mais ils font pas qu'un petit, ils en font plusieurs, parce que sinon, ils disparaissent très vite, en fait.
En fait, il existe un gradient depuis les unions libres en promiscuité totale, où chacun copule comme il le veut, quand la promiscuité sexuelle va offrir des partenaires potentiels. C'est le cas, par exemple, chez des singes comme les bonobos, mais chez beaucoup d'espèces aussi, comme les mangoustes, jusqu'à la monogamie obligatoire qu'on vient de voir chez les manchots ou encore chez d'autres espèces comme le calao.
Oh!
C'était Monogamie par le groupe Malajub.
Vous écoutez Radio Libertaire sur 89.4, la radio de la Fédération anarchiste et une émission qui déménage les sciences du vivant.
Donc, il y a une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui, si elle ne crée pas la monogamie, permettrait toutefois de la faire durer.
Oh, mais ça va bien plus longtemps que ça, parce que figure-toi que l'ocytocine, on nous a dit que c'était l'hormone qui créait la monogamie.
L'hormone de l'amour.
L'hormone de la monogamie. En fait, on a eu une étude par un certain monsieur Thomas Insel, qui dans les années 90, 95, 98, a affirmé que la monogamie était la base, que l'ocytocine, pardon, était la base de la monogamie. Alors, pour étudier ça, en fait, il a fait une étude très simple. Il a comparé des campagnols de montagne et des campagnols de prairie aux États-Unis. Et il a découvert que les campagnols de prairie, qui vivaient, d'après lui, en formant des périodes prolongées d'association entre mâles et femelles, c'est-à-dire ce que lui, il a appelé la monogamie, avaient un taux d'ocytocine plus fort que le campagnol de montagne. Mais que le taux de vasopressine était plus faible. Alors, c'est assez rigolo quand on imagine qu'effectivement, les médias en ont tout de suite fait l'hormone de la monogamie. Il faut savoir ce que c'est que l'ocytocine. C'est à partir de cette molécule qui va détendre tout le tractus génital que les accouchements peuvent se faire. On en a donc déduit que ces molécules pouvaient permettre une certaine relation, et on l'a retrouvé, cette molécule, l'ocytocine, dans des relations affectives. Par exemple, l'attachement de la mère à ses petits est théoriquement dépendante de l'ocytocine. Alors, de là à faire de l'ocytocine l'hormone de l'attachement, évidemment, c'était tentant.
Ils l'ont essayé chez les hommes aussi. Hein.
Alors, on l'a d'abord testé quand même, je vous dis, pendant les années 90, sur toute cette période-là. On a comparé le rôle de la vasopressine au rôle de l'ocytocine. Alors, la vasopressine, c'est pareil. C'est une hormone qui permet de fabriquer de la constriction des vaisseaux sanguins. On est très loin entre la constriction des vaisseaux sanguins et puis le fait d'oxyder les circuits nerveux et le fait de réussir, en fait, à avoir une réelle monogamie. Mais la vasopressine et l'ocytocine semblent agir comme antagonistes l'un et l'autre. En outre, lorsqu'il y a beaucoup d'ocytocine, ça inhibe la préférence des femelles. C'est-à-dire qu'en gros, les femelles de campagnols ne savent plus qui choisir, donc elles vont rester avec le même. Ah ouais. Alors que lorsqu'on met de la vasopressine, ça augmente l'incapacité du mâle à rester avec la femelle. Ouais. Ça, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Mais attention, ces augmentations sont très très courtes. C'est quelques durées, quelques secondes, quelques éléments de choix qui se font sur lesquels les auteurs ont trouvé que statistiquement, ça pouvait jouer. Alors après, on a cherché effectivement à définir si les récepteurs nerveux de l'ocytocine, puisqu'on est aussi capable de ressentir ces hormones-là, pouvaient avoir un rôle. Et c'est là qu'on a commencé à l'appeler l'hormone de l'amour.
Voilà.
Car plus une personne sécréterait d'ocytocine, plus elle serait attirée. Et donc, ça fabriquerait de l'attachement plus ou moins exclusif.
Du coup, on aurait résolu le problème de l'infidélité. On injecte à tous les hommes, pouf, l'ocytocine, et les femmes sont tranquilles.
Ça serait un peu l'idée, si tant est qu'évidemment, les femmes n'avaient pas, elles aussi, besoin d'ocytocine pour se rester fidèles. Alors, on a également, effectivement, travaillé sur le cerveau pour voir si l'ocytocine pouvait provoquer quelque chose. On a fait notamment inhaler l'hormone à des hommes hétérosexuels, à des hommes célibataires ou à des hommes en couple. Et on leur a demandé quelles étaient les femmes attirantes. Alors, on essayait d'espérer, en quelque sorte, que les hommes en couple allaient juger moins attirante une femme lorsqu'ils avaient pris de l'ocytocine que quand ils n'en avaient pas. Alors, c'est à peu près le cas, mais alors, c'est pas non plus tout à fait sensible. On va dire que les hommes en couple qui ont pris une dose d'ocytocine ont maintenu une distance un peu plus importante avec la femme attirante.
Mais combien de temps, c'est ça?
Très peu de temps et une distance de 15 cm en moyenne de plus. Donc, c'est pas non plus. Donc, c'est ça qui serait la monogamie. On voit qu'on en est loin. Ouais. En fait, on s'aperçoit que l'hormone ne va pas du tout empêcher l'attraction. Elle va simplement empêcher l'homme de s'approcher de trop près. En gros, évidemment, ça, empêcher l'homme de s'approcher de trop près, c'est quand même très, très, très loin de la monogamie. Je répète, en plus, ces hormones ne sont pas impliquées seulement dans les mécanismes sexuels. Elles sont aussi impliquées dans tout un ensemble d'autres mécanismes. La vasopressine va avoir un rôle dans l'érection chez les mâles, mais elle a quand même un rôle très très faible par rapport à tous ces facteurs-là. En fait, ce sont des hormones qui servent un peu à tout, car évidemment, ce sont des cocktails hormonaux qui fonctionnent dans nos relations sexuelles. Et il est très difficile d'affirmer que l'une de ces hormones a plus d'importance que d'autres.
Ça suffit pas.
Non. En outre, on a plus travaillé sur les récepteurs à ces hormones pour comprendre quelles étaient les bases de la monogamie. Mais tout ça, en répétant bien entendu que ça s'est passé chez les campagnols, voilà, qui sont censés être monogames. Or, les campagnols de prairie vivent une vie très très vieux. Ça dure environ 18 mois, hein, 18 mois ils sont morts. Donc, être monogame pendant 18 mois, je pense qu'on en est tous un petit peu capables, avec ou sans ocytocine.
Voilà.
Je ne suis pas certain que le facteur soit très... On voit ici que ces recherches sont parties de l'hypothèse qu'on avait déjà des animaux monogames, qu'ils étaient plus monogames que d'autres, ce qui n'est pas faux, hein, si on compare avec le campagnol de montagne. On est parti de l'hypothèse que le seul facteur qui les différenciait, c'était la monogamie ou la polygynie. Or, il existe des populations de campagnols de montagne qui sont pas très très volages et des populations qui sont en effet polygynes. Mais la polygynie existe aussi chez les campagnols de prairie, selon l'endroit où ils sont. Donc, le facteur neuro-endocrinien reste quand même tout à fait discutable pour savoir où est-ce qu'on en est dans cette histoire de la monogamie.
C'est Barrier, pourquoi pas? C'était La Vie à Trois, donc Riss et Barrier. Vous êtes, nous sommes, sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans Dieu et sans publicité, et dans une émission faite pour les décortiquer du bulbe, Science en Liberté.
Voilà, nous voyons donc que la monogamie est une énigme évolutive, mais surtout qu'il est bien difficile de découvrir un avantage, non plus qu'il n'apparaît pas possible de considérer la monogamie comme étant le propre de l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, donc, il existe des espèces qui sont pourtant réputées pour leur organisation.
Comme le loup, le renard.
Des organisations très stables et considérées comme monogames, comme par exemple le loup, le renard ou encore...
Le castor.
Alors le castor d'Europe, castor fibère, est un animal dit monogame. La femelle va mettre bas dans son terrier et elle allaite ses petits pendant un certain temps. On sait que ce sont des animaux qui vivent en groupes familiaux et que le comportement de reproduction apparaît effectivement relativement stable. Mmh. Il y a en général de 2 à 4 reproductions, puis les individus se séparent et vont recommencer avec d'autres partenaires. Cette monogamie est donc plus volatile que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit bien d'une polygynie, un mâle avec plusieurs femelles, mais dans des unions qui se succèdent.
Voilà, donc ils vont voir, ça dure un certain temps, et voilà, après ils recommencent ailleurs.
Alors le loup d'Europe, c'est un peu pareil. Il est aussi donné comme un exemple de couple monogame, mais les loups d'Europe vont se reproduire en couple pendant une durée de 3 à 4 ans. En fait, il s'agit d'une formation reproductrice qu'on appelle la meute, voilà, dans lequel les parents vont donner naissance à des juvéniles qui vont élever, qui vont rester ensemble. Cette organisation sociale va donc regrouper deux reproducteurs qui sont les parents et leur famille.
Voilà, et leur famille, voilà.
Ça va durer 3-4 ans, 5 ans.
Après, les jeunes vont partir.
Voilà, les jeunes vont partir, comme dans toutes les familles.
Ou non.
Voilà, et vont reformer
une autre meute.
Une autre meute.
D'ailleurs.
Et les parents peuvent aussi se séparer. À cette époque particulière, les parents se séparent, les loups souvent deviennent à ce moment-là un peu solitaires au bout d'un certain temps. Le groupe peut revenir, il peut se reconstruire, mais en fait, cette apparente monogamie est plutôt provisoire et elle est surtout dépendante des ressources dans un premier temps, mais aussi de ce qu'on appelle le conflit reproducteur. Et ça va constituer notre troisième hypothèse d'explication de la monogamie, c'est le fameux conflit sexuel. Alors en effet, il faut savoir que les mâles et les femelles n'ont pas du tout le même intérêt à rester ensemble. On se devine que le mâle, s'il reste avec la femelle, va se priver de pouvoir se reproduire avec d'autres femelles.
Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure.
Mais la femelle, en restant avec le mâle, elle va aussi se priver de la possibilité d'avoir une diversité génétique.
Voilà.
Donc en fait, il n'y a pas un désavantage qui serait plus grand pour le mâle, contrairement à ce qui est souvent dit par les tenants de l'écologie comportementale, et puis un désavantage qui serait plus faible pour les femelles. Le désavantage est vrai pour les deux. La question est donc importante, pourquoi le mâle reste-t-il à élever des jeunes ? Eh bien, il le fait pour assurer sa paternité, pour être sûr d'être bien le père. Pourquoi la femelle accepte de ne pas faire de la variation génétique ? Eh bien, parce qu'elle est certaine que le mâle va rester avec elle pour assurer leur devenir. Ce conflit reproducteur trouve donc son apaisement. Les divergences entre les mâles et les femelles vont ici s'apaiser. On va se mettre d'accord sur un contrat relativement court. Et si on n'était pas d'accord, eh bien, on va se détruire l'un l'autre.
Ouais, c'est un contrat de mariage, en fait, un CDD.
C'est un CDD, tout à fait. C'est ce qu'on appelle en biologie évolutive la théorie de la destruction mutuelle assurée. Le conflit sexuel va en effet conduire les deux individus à rester ensemble pour des raisons qui sont bien différentes. Et si le couple est stable pendant plusieurs années, ce sont d'abord parce que ce sont des espèces à longue durée de vie et à forte dispersion, mais qu'en plus, évidemment, ils n'ont pas le même intérêt l'un et l'autre à rester ensemble, mais le compromis va s'établir entre les deux, puisque si l'un des deux rate sa reproduction, l'autre ratera aussi sa reproduction, ce qui n'est pas le cas chez toutes les espèces. Le conflit reproducteur, par exemple, existe chez les lions, et il est lié là à un autre facteur qu'on appelle l'infanticide.
Alors, mais pourquoi destruction mutuelle assurée ?
Alors, on va prendre l'exemple du calao. Alors, il y a plusieurs espèces qui sont comme ça, les albatros, voilà, les loups dont nous avons parlé, les gibbons, etc.
Ouais.
Le calao. Alors, le calao, c'est le calao bicorne, c'est un gros oiseau qui a un bec tout à fait remarquable. On l'appelle bicorne parce que sur son bec, il a une sorte de caroncule pas possible. L'animal peut vivre 8 à 10 ans à peu près et il atteint sa maturité sexuelle à 4 ans. Donc, c'est relativement tardif. Une fois formé, on considère que le couple va rester fidèle les animaux vont nicher dans des arbres relativement hauts. La femelle va pondre plusieurs œufs, mais pour ce faire, elle va le montrer dans un creux d'arbre. Et donc, elle rentre dans le creux d'arbre, là, elle pond ses œufs, et elle va refermer le nid avec une bouillie qui est faite d'un mélange de particules de bois.
Pour protéger des prédateurs.
Ça peut être pour protéger des prédateurs. En tout cas, elle s'enferme avec le petit toute seule. Le mâle ne sait donc absolument pas combien il y a d'œufs, il ne sait pas combien il y a de petits, le plus souvent il n'y a d'ailleurs qu'un seul qui survit. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il y a un tout petit trou par lequel il peut passer des aliments et que derrière ce petit trou, il y a la femelle. Si la femelle ne reçoit pas assez de nourriture, c'est très simple, elle va manger ses petits. Donc le mâle, il a intérêt à la nourrir.
Voilà.
Et si le mâle...
Donc il se doute bien qu'il y a des petits, quand même.
Il a quand même copulé avant, il a quand même fait des choses. Mais s'il ne participe pas au nourrissage, il est certain qu'il n'en aura pas. Donc, dans ces cas-là, si le mâle disparaît, meurt ou va voir ailleurs, eh bien la femelle mange les petits, casse le nid et s'en va. Si en revanche le mâle continue d'alimenter la femelle, eh bien il ne saura jamais si la femelle est en état d'avoir des petits ou pas. Ce qui fait évidemment que le mâle est en quelque sorte coincé par la discrétion de la femelle. Alors c'est pas tout à fait la même chose chez toutes les espèces, mais on voit ici ce qu'est la théorie de la destruction mutuelle assurée. On s'aperçoit très bien que si l'un des deux ne fonctionne pas, ça ne va pas marcher. Oui. C'est ce qui explique que ces espèces ont souvent des maturités sexuelles tardives. Prenons par exemple l'albatros sur l'heure, qui est un autre exemple de monogamie, généralement à vie. L'animal peut vivre de 50 à 80 ans, mais il atteint sa maturité sexuelle qu'à 20 ans. Il va donc se fiancer entre 12 et 14 ans, ça va durer un certain temps, il va commencer sa reproduction à 20 ans et il se reproduira une fois tous les 2 ans. La reproduction est donc très lente et les individus ont besoin d'être ensemble car la nourriture est faible pour nourrir un animal de cette taille en mer. Ce sont des animaux exclusivement marins qui vivent dans des zones de grandes tempêtes. Le mâle a très peu de chances de trouver beaucoup de femelles, donc il a tout intérêt à rester avec celle qu'il a rencontrée. La femelle a très peu de chances de nourrir seule son jeune, elle a donc tout à fait intérêt à rester avec le mâle. Si l'un des deux échoue, eh bien, c'est la destruction mutuelle assurée. Comme cette destruction est là, évidemment, les animaux sont obligés de rester. Mais il ne faudrait pas prendre ça comme un mécanisme simplement paisible ou de paix. Car pour que cette monogamie se mette en place, il faut aussi comprendre que les animaux vont avoir des conditions de vie terribles et que le mâle va chercher à contrôler la femelle. C'est le mécanisme de la guerre du sexe, ce qu'on appelle aussi le territoire ou le mate guarding. Le mâle va rester à côté de la femelle pour vérifier qu'elle n'aille pas voir ailleurs. Il y a donc un contrôle de la sexualité des femelles dans la monogamie. On retrouve ça avec le voile islamique, hein, ou avec bague au doigt, ou tout un ensemble d'autres critères qui vont montrer que le mâle contrôle la femelle.
On la laisse dans la cuisine.
Voilà. Voire s'empare de la femelle en disant, par exemple, en faisant que la femelle va changer de nom et appartenir au mâle, en quelque sorte. Mmh. Et évidemment, les femelles vont aussi chercher à contrôler le mâle, c'est-à-dire à exiger qu'il participe aux soins. Ouais. Puisqu'elles sont obligées de rester avec lui, au moins qu'il serve à quelque chose. Cette sexualité très exclusive qui dure longtemps ne peut pas exister longtemps, en fait, dans la réalité, dans la nature. Elle est plutôt rare, parce qu'elle ne peut être privilégiée qu'à la seule condition que les animaux disent qu'il y a un risque. Et le risque, c'est évidemment le risque d'infanticide, comme on l'a vu chez le calao.
Voilà.
C'est du style, si le mâle ne reste pas avec moi, je tue les petits. Et le mâle dit, si la femelle ne reste pas m'aider à nourrir, je me nourris des petits.
C'est du chantage mutuel.
C'est un chantage mutuel. Chantage mutuel qu'on retrouve bien dans la logique de contrainte qu'imposent les religions, par exemple, pour fabriquer cette monogamie. Alors, c'est très courant chez les mammifères, ce processus, puisqu'en fait, les animaux vont connaître un fort taux d'infanticide chez les mammifères. La lactation est en général un mécanisme contraceptif.
Chez l'humain aussi, je crois, mais chez l'humain aussi. Pas évident.
Pendant la lactation, en tout cas, les femelles ne peuvent pas avoir de descendants. Mmh. Donc, pour rendre les femelles fertiles, l'idée, c'est que pour le mâle, eh bien, il peut tuer des petits. S'il tue des petits, la femelle va redevenir fertile et donc, du coup, il peut avoir évidemment des possibilités. C'est ça, le conflit sexuel. Le conflit sexuel, c'est l'idée que l'un des deux individus va avoir sa reproduction affectée par l'autre sexe. Le couple n'est pas du tout un mécanisme paisible, c'est pas du tout un mécanisme où on se met à deux pour réussir à coopérer pour la reproduction, c'est bien le contraire. C'est le mâle qui peut avoir de la reproduction s'il est avec une femelle disponible, et qui n'en aura pas si la femelle n'est pas disponible.
Voilà.
D'où le risque d'infanticide. Et donc on présuppose que ce risque d'infanticide est apparu en effet comme élément suffisamment important lorsque la densité des femelles est faible, que les mâles sont incapables de défendre l'accès exclusif à plusieurs génitrices et qu'ils ont besoin de connaître leur paternité, eh bien du coup, vous voyez, densité faible, difficulté de vivre, eh bien du coup, la monogamie est un facteur assez simple. Les mâles vont chercher à avoir une reproduction. Les couples vont se former dans le but reproducteur. La femelle dit « je veux bien me reproduire, mais à condition évidemment que le mâle reste m'aider ». Évidemment, les mâles vont pouvoir ainsi aussi, c'est le problème que les femelles vont connaître, les mâles vont pouvoir ainsi contrôler la descendance, mais aussi vont peser sur le choix des femelles, vérifier leur paternité et leur interdire une autre forme de sexualité.
Ça ressemble beaucoup à la monogamie humaine, ça. Hein,
c'est typiquement comme la monogamie humaine, cette monogamie, mais la question est de savoir est-ce que ça existe. Ça existe que dans la mesure où les femelles acceptent ce contrôle des mâles, car ce contrôle des mâles est évidemment une limite dans un système de découverte des partenaires. Et évidemment, l'idéal de la monogamie dans nos sociétés humaines, l'idéal religieux, ne peut exister que si on est dans une société où les mâles vont dominer, c'est-à-dire si on est dans des sociétés de type totalement patriarcal. Et c'est évidemment le point essentiel de ce mécanisme reproducteur.
Mais justement, on ne copule pas dans le seul but de se reproduire. Les humains, c'est pareil.
C'est vrai que la plupart des espèces animales ou humaines ont des forts taux de copulation. La sexualité n'est pas utilisée seulement pour la reproduction. On a déjà un peu parlé sur ces ondes. On s'aperçoit que la sexualité dépasse largement la reproduction, alors que la monogamie est en fait un mécanisme reproducteur. C'est-à-dire c'est une structure de reproduction qui est directement liée au conflit sexuel et directement dépendante de la capacité des mâles à dominer les femelles. C'est-à-dire que là, on va retrouver effectivement toutes les bases du patriarcat.
Si tu me dis des histoires, je te brûle avec mon cigare. Je t'enlève même un bout de peau que je jette dans le lavabo. Si tu me dis des mensonges, je t'étouffe avec une éponge. Je te mets même dans le placard aux araignées belles et noires. Histoire d'amour, amour toujours. Je t'étrangle avec mon foulard. Je te coupe même en morceaux. Je sais, j'ai pas l'air costaud, mais t'inquiète pas, je saurai prendre un couteau l'aiguiser et lentement le faire glisser sur ta peau douce et dorée. Histoire d'amour, amour toujours. Je te plonge dans ma baignoire, où un oursin bien câlin saura te frotter les reins. Si tu me dis une histoire, je te colle au mur et je pars à Papette ou Rio sans même te laisser un mot.
Donc c'était Isabelle Maillot, belle histoire d'amour.
Et nous revoilà toujours à nous poser la question de ce qu'est la monogamie, ou plutôt de savoir si finalement elle existe. Car si on étudie les atlas d'ethnographie, on s'aperçoit que sur les 1231 sociétés humaines qui ont été étudiées autour du monde, on en note 186 qui sont considérées comme monogames, contre 453 qui ont plutôt la polygynie, 588 où la polygynie est tout le temps le cas, et seulement 4 qui ont de la polyandrie. Alors ce sont des chiffres officiels, mais évidemment, ils reposent sur l'hypothèse qu'il y a des tiroirs qui existent, des tiroirs conceptuels, l'un qui est monogamie, l'autre qui est polygynie, comme si c'était relativement
simple. C'est plus simple comme ça.
Oui. 453 plus 588, ça nous fait quand même déjà largement plus de 1000 sociétés qui sont polygynes chez l'espèce humaine. En fait, on s'aperçoit que la monogamie, ça constitue bien davantage une injonction morale qu'une réalité sexuelle.
Eh ben oui, parce que quand t'es célibataire, alors c'est mal vu du tout. Alors, pour l'homme, c'est un vieux garçon, c'est un séducteur, il n'arrive pas à fixer les femmes, Mais alors, pour la femme, c'est encore pire. La vieille fille, elle s'ajoute au fait qu'il faut, pour les femmes, l'injonction d'être mère.
Oui, en effet, dans ce cadre de la monogamie, l'hypothèse que la femme existerait sans être mère est évidemment malvenue, surtout dans une société patriarcale où l'on veut avoir des jeunes garçons pour prendre le relais.
Voilà. Et donc, il y a l'histoire de l'âme sœur, l'unique amour, l'amour de ta vie. Ouais, on nous dit de chercher donc tout le temps l'âme sœur qui pourrait exister quelque part dans le monde. Eh ben, c'est comme essayer la méthode des Shadok. En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
Alors là, tu es un petit peu méchante sur cette hypothèse, car l'unique amour, en fait, n'est pas tout à fait impossible. Alors, ce qui est impossible, c'est que ça soit représenté par une unique personne. Dans la réalité, ce qu'on cherche dans la relation avec l'autre, c'est tout un système immunitaire, tout un système de chimie particulier. Et il y a évidemment des dizaines de milliers de personnes qui ont ce système de chimie.
D'affinité
particulière. Mais en même temps, cette affinité chimique et affective va se retrouver chez peut-être 10 000 personnes, mais on ne va pas les voir tout ensemble, les 10 000. Et donc, on va les voir petit à petit. Ce qui fait que lorsqu'on en rencontre une, eh bien, elle nous apparaît être justement l'âme sœur, celle qui nous convient le mieux pour
c'est
un certain
elle.
Temps.
Je le sais, c'est elle. Et donc, il y a les exigences de la fidélité sexuelle. Alors, qui est plus admissible, enfin, l'infidélité chez l'homme est plus admissible que chez la femme.
Ah oui, l'homme c'est un don Juan quand même.
Et donc pourquoi ? Parce que il faut être notamment reconnaître la paternité. C'est pour ça que la construction de la famille patriarcale, c'est l'assurance de la paternité et bien sûr de l'héritage, parce qu'il faut qu'il y ait des garçons.
Oui, le patriarcat, c'est évidemment un résultat économique et sexuel. C'est la fameuse famille rêvée du pré-capitalisme marchand et du capitalisme ensuite. Mmh. C'est-à-dire qu'on va fabriquer évidemment une société qui va être régie par une forme de hiérarchie. Alors, on a déjà parlé des problématiques de hiérarchie et de dominance, qui sont souvent des hypothèses dans le monde biologique, bien que la réalité soit très très éloignée de ça. Et on s'aperçoit en fait que nous sommes fabriqués à partir d'un moule, d'un modèle qui est le modèle rêvé du capitalisme marchand, et qu'on nous impose en gros cette hypothèse du couple formant la famille comme étant l'hypothèse naturelle. Alors ça signifie pas qu'il n'y a pas d'amour entre les hommes et les femmes, ça signifie plutôt qu'on va fabriquer grâce à ce système et à ces exigences de contraintes, on va fabriquer finalement tout un ensemble d'autres paramètres de contraintes qui sont l'hypothèse du divorce, l'hypothèse de la tromperie, de l'infidélité, tous ces mots qui n'existeraient pas sans le système religieux et le système économico-sexuel de la famille du capitalisme.
Mais il y a d'autres sociétés humaines qui existent aussi sans la famille et dont on pourra parler dans une prochaine émission. Donc,
les Iroquois, les Yanomami et bien entendu tout ce qu'on appelle les Mosso, les sociétés dites matriarcales, dont on verra d'ailleurs qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un pouvoir des mères, mais quelque chose d'un peu plus complexe. Et puis chez les animaux, il existe un gradient de relations sexuelles, avec une organisation sociale qui est plutôt de type fission-fusion. On y reviendra aussi, car on vient, on part, on forme des groupes d'affinités, des groupes qui peuvent participer à des moments sexuels, mais c'est pas parce qu'on aime un individu, ou du moins qu'on a un comportement sexuel et amoureux avec un individu, qu'on va passer sa vie avec. On est parfaitement capable de changer, ça change les gènes, au demeurant. La famille n'existe donc que de manière très provisoire, et ça n'empêche nullement que les relations peuvent être très bonnes. Chez les éléphants, on va suivre la piste des éléphants la prochaine fois.
Et
pour
puis, on peut aimer.
Ça se passe.
On peut aimer aussi d'autres personnes en même temps.
Alors effectivement, l'amour pluriel peut également exister. Donc nous reparlerons de toutes ces sociétés dites matriarcales. En attendant, petite annonce particulière sur qu'on m'a demandé de passer sur le renouveau du réseau Nopassaran. Le réseau Nopassaran se reconstruit progressivement depuis la coordination du mois de janvier. Et il y a eu un gros bug sur la liste du mail national du réseau Nopassaran. Et donc une nouvelle liste a été créée sur un nouveau serveur, le serveur riseup.net. Donc si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à envoyer un mail à nopassaran@list au pluriel. riseup.net. Voilà, enfin, vous retrouverez tout ça en cherchant Nopassaran sur internet. Je vous laisse maintenant avec Henri Tachant.
Côté cœur, côté cul, ni vainqueur, ni vaincu. Côté cœur, côté cul, la vie va, rien de plus. Y a des marguerites qui rêvent du prince charmant, filant tous les jours leur rouée patiemment, penchés sur Marie Match, rêvant sur nous deux, au futur époux, à leur fosse de banlieue. Et y a des pucelles qui ont bien trop chaud au ventre, au fond de leur lit, tout au fond de leur antre, qui se font tirer à douille rabattue par le premier chasseur vu. Côté cœur, côté cul, ni vainqueur, ni vaincu. Côté cœur, côté cul, la vie va, rien de plus. J'ai des amis qui disent la fidélité, c'est pas un critère d'amour, pas la vérité. Nous
nous on s'aime très fort, mais un joli cul qui passe, ça vaut la peine d'être vécu. J'ai des amis proches qui sont échangistes, des intellos de gauche ou des garagistes, qui se font du bien en se faisant du mal. Fin Dieu, quoi la dame normale. Côté cœur, côté cul, ni vainqueur, ni vaincu. Côté cœur, côté cul, la vie va, rien de plus. Moi qui suis un vieux con, je le dis crûment, on peut pas avoir l'argent et l'argent de l'argent, sauf bien sûr mon banquier et ses quelques gens qui baisent au dehors et aiment au dedans. Comme dit Pierre Perret, le bonheur assurément, c'est tout simplement un travail à plein temps. Moi qui me croyais le pire des fainéants, je turbine passionnément. Côté cœur, côté cul, ni vainqueur, ni vaincu. Côté cœur, côté cul, la vie va, rien de plus. Certes, vous me direz qu'aujourd'hui le sida couche sur les liqueurs et culs bien à plat. Et dès son pipé, ça oblige bien des choses. Tirer son coup, bon Dieu qu'il ose, à moins de porter ce petit bout de caoutchouc qui vous garde en vie, qui vous mène jusqu'au bout. Mais je pense très fort, Roméo et Juliette, à m'en mourant d'amourette. Côté cœur, côté cul, ni vainqueur, ni vaincu. Côté cœur, côté cul, la mort va, rien de plus. Côté cœur, côté cul, ni vainqueur, ni vaincu. Côté cœur, côté cul, la mort va, rien de plus.
Nous voilà revenus sur les ondes de Radio Libertaire, et après ces analyses de la vie de l'albatros à celle des Indiens, on constate combien l'organisation sexuelle est changeante dans l'évolution. Il est aisé de conclure que la monogamie n'est donc qu'une vue de l'esprit. La monogamie n'existe pas, ou du moins elle n'existe que dans la tête de ceux qui souhaitent nous imposer une norme comportementale facile à gérer pour des marchands et pour des curés. Dans nos sociétés occidentales, toujours influencées par les religions monothéistes, l'espèce humaine s'est installée dans ce qui ressemble de plus en plus à une monogamie séquentielle, c'est-à-dire en fait une polygynie, ponctuée d'unions maritales, de séparations et de divorces, constituant une sorte de compromis évolutif entre l'avantage économico-marchand d'un élevage commun des enfants et le penchant, toujours aussi fort évidemment, de la nature, c'est-à-dire de la recherche de relations affectives et sexuelles nouvelles, d'une vie en petit groupe, ou même d'une vie en vraie communauté amoureuse. De fait, avec la société marchande, l'objectif de la séparation des humains entre eux atteint son paroxysme dans cette conception économique de la famille monoparentale, réduite du coup à la femme et à sa progéniture. Une sorte de famille abstraite inexistante. Il faut donc parler d'amour, des triomphes de l'amour. L'amour libre est une exigence libertaire qui s'est opposée très tôt aux mariages arrangés ou au carcan étatique d'un contrat cloisonnant la femme comme une propriété de l'homme. En secouant la tyrannie d'un patriarcat établi sur la domination des femmes, la question de l'amour libre reste bien le projet de la liberté d'aimer. Car l'amour libre est avant tout une critique de l'exclusion. Il n'est donc de monogamie que comme organisation sociale et sexuelle dans le patriarcat et dans le monde marchand. Dans ce monde capitaliste, patriarcal, les femmes ne valent rien, on peut les acheter pour rien, voire même il faut qu'elles aient une dot. Or, bien d'autres rassemblements existent qui ne sombrent pas ni dans la caricature du harem polygame, ni dans les affres de la cellule familiale rêvée, celle des années 50 et des marchands. C'est ce que nous verrons la prochaine fois, en parlant des sociétés matriarcales, et là encore, en suivant la piste des éléphants et en côtoyant bien des idées noires, il sera possible de dégager quelques conceptions originales sur des organisations sociales alternatives, sur l'amour libre et la vie humaine. Car décidément, l'amour libre installe à la fois une amoureuse réconciliation des libertés et une exigence d'émancipation sociale. Voilà tout le sens du cri de Lucienne Gervais. On a représenté souvent l'amour libre faisant le pied de nez aux vieilles gens. Eh bien moi, je vois l'amour enfin libre, faisant le pied de nez au moral suranné, aux vieux us et aux vieilles coutumes. Je vois l'amour libre faisant le pied de nez au vieux monde.
Donc, auditeurs, auditrices, intrépides, vous pouvez nous contacter en téléphonant en studio sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les quatrièmes lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et les idéologies qui la parcourent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Leudet, avec la complicité de Christelle et de Monique à Paris. La musique d'introduction est de Hicham Chahidi. Et nous allons conclure sur...
Sing, Sing, Sing par Benny Goodman et son orchestre.